voix nue. Cette semaine, Pierre Chassagneux rencontre Martine Monteil. Ce soir, les toutes premières fois.
Bonsoir Martine Monteil.
Bonsoir.
Depuis le début de votre À voix nue, on déroule ensemble le fil de votre passionnante carrière, une carrière qui trouve en ses lieux du 36 Quai des Orfèvres, sur l'île de la Cité, à Paris, l'acmé de votre parcours. Ce lieu concentre les plus grandes brigades centrales de Paris et vous allez tour à tour les diriger. On est en 1982 et jusqu'en 1989, vous allez travailler à la brigade des stupéfiants. Et dans cette brigade, de l'action, il y en a.
Ah oui, 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 là je me suis vraiment régalée, ça a été une période assez extraordinaire. Le patron, M. Morin, m'a confié la direction de la section des stupéfiants. Donc là, moi, je ne faisais plus de formation. J'étais complètement consacrée aux enquêtes. Et donc, on a choisi un commissaire qui, lui, est venu me remplacer pour continuer ses actions de formation.
La plus grande affaire que vous avez eu à résoudre sous votre administration aux stupéfiants s'appelle l'affaire des couches-culottes.
Cette affaire, elle a été extraordinaire. Elle a été très, très difficile. Elle a été très difficile parce qu'en fait, on était dans le milieu tamoul, ce qui était un peu nouveau à l'époque, parce qu'on faisait surtout la China's Connection. À l'époque, on avait beaucoup de Chinois qui, eux, avaient carrément des mini-labos dans des domiciles très planqués. Et puis, on avait le traditionnel trafic de cannabis, etc., etc. Mais en héroïne, on a vu arriver les Tamouls sur le terrain. Et là, terrible, les planques, les surveillances, parce que... Et ça grouillait dans ces immeubles, ça rentrait, ça sortait, tout. Alors il fallait se repérer à la tenue vestimentaire, l'écharpe jaune, le blouson vert, enfin, on s'accrochait à tout ce qu'on pouvait, la moustache, mais ils avaient beaucoup la moustache, enfin, c'était une horreur pour le repérage, donc on faisait beaucoup de photos. C'était assez compliqué. Elle a été compliquée parce que, en termes d'écoute téléphonique, alors là, je me suis trouvée confrontée. Oui, les difficultés qu'on pouvait avoir dans le temps, hein, c'était système D quand même. Et je dis à la direction, je dis, on a un problème, on met en place des écoutes, j'ai pas d'interprète. Ah ben non, il y en a pas et tout. Enfin bon, bref, on va en recruter un. Hein. Enfin, ok, c'était très bien, on en recrutait un, hein, mais nous, l'enquête, elle est en cours, c'est tout de suite.
Oui,
c'est tout de suite. Et je reconnais, je peux le dire maintenant, j'ai pris la responsabilité. On avait un informateur dans la place à l'époque. Sur les très grosses affaires, souvent, on avait un informateur, heureusement, qui nous aidait, parce que c'était vraiment, je vous dis, une fourmilière. Et bien, j'ai dit, on va le faire venir, et c'est lui qui va nous traduire les écoutons. Délicat quand même, très délicat. Pas très catholique, mon histoire, mais j'ai pris le risque, et je l'ai fait, et je ne le regrette pas. Et donc, il venait donc en catimini dans le groupe, et le groupe faisait écouter, bien sûr, il n'allait pas là-bas, dans les sous-sols confidentiels défense. Hein. Donc non, c'était ici, on faisait venir les bandes ici, il écoutait, et il nous traduisait, donc... Après, faut avoir confiance aussi. Il faut pas qu'il joue double jeu, donc etc. Donc c'est une affaire qui nous a pris la tête d'une certaine façon, parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup de risques et tout. Mais bon, on la voulait. On sentait qu'il y avait un gros trafic. On avait raison. Il y avait un gros trafic. Et donc, on aboutit au jour J, quoi, où il y a une livraison devait arriver, un gros colis. On savait pas quoi. Et puis on a su où quand même. On avait une adresse. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez en planque. Hein, donc on s'est mis en planque. Je me souviendrai toujours, parce que le groupe, ce jour-là, évidemment, vous prenez du renfort. Hein, donc on s'est mis pratiquement sur deux groupes. Et puis, on a planqué. La première nuit, on a eu beaucoup d'espoir et tout. Et puis, bon, c'est passé. Rien. Ouais, ça n'a pas bougé. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, les stupes. C'est-à-dire, c'est d'éternels rendez-vous, d'éternels ratages de rendez-vous. C'est reporté, c'est ceci, c'est cela. Bon, bref, faut pas caler, quoi. Voilà. C'est là où l'opiniâtreté sert. Bon, les gars, on s'y remet, hein. Tant pis, on y retourne. Et en fait, il semblerait qu'effectivement, donc, ça a été reporté et ça semble être la nuit suivante. Rebelote. Re-en plan. On commence à fatiguer, vous voyez. Donc, on mange des sandwichs, on boit, on se parle dans les voitures, on se raconte un peu nos histoires, nos vies, nos problèmes, la politique, tout quoi, on fait tout passer, l'actualité, il faut se distraire, il faut parler, il faut surtout aussi parler à celui qui est seul dans la bagnole de Planck, ce qu'on appelle le soum, c'est-à-dire le sous-marin, parce que c'est lui qui est en visuel sur l'objectif, c'est-à-dire là où la livraison, c'est un pavillon en fait en grande banlieue, c'est là où ça devait arriver quoi. Et surtout, faut pas qu'il dorme le gars quoi. Et à un moment donné, le gars dans le soum, il dit, allez. Ça y est, je crois que c'est bon. Alors, tout le monde est fébrile, tout le monde se réveille, plus personne n'a sommeil, etc. Et là, il balance un truc sur toi, mais oh là là, c'est pas terrible, c'est pas gros, c'est pas ce qu'on attend, c'est bizarre, etc. Et là, balance un truc sur toi, ils se sont cassés. Bon, alors lui, évidemment, il a relevé l'immatriculation, c'est son rôle, il est en première ligne et tout, bon, voilà. Et tout, et puis, bon, bah, mais il se passe rien, il y a personne, les types se sont tirés, quoi. Bon, il a balancé un truc sur un toit. Bon, est-ce que c'est ça, finalement, ou est-ce que c'est autre chose? C'est quand même bizarre de balancer une quantité de cam importante, ce qui représente quand même financièrement un gros paquet. Et là, on était là à se poser des questions dans la voiture, et puis il y en a un autre chef de groupe, là, il pleuvait, mais des trombes d'eau. Et tout, il dit, mais faut en avoir le cœur net, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on fait quelque chose? Et tout, bon. Et le gars, il dit, bon, alors il en parle avec l'autre chef de groupe, celui qui était en charge de l'enquête, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux que j'aille voir? Et je dis, ouais, tiens, ça serait pas mal qu'il aille voir, après tout. Et il enlève ses chaussures, malgré les trombes d'eau. Et le gars, en chaussettes, il va. Alors évidemment, il y a le gars dans le soum, donc on prévient celui du soum, il dit, fais gaffe, tu t'avertis si quelqu'un arrive, parce que l'autre, on prend des risques, encore une fois, vous voyez. Et le gars, il grimpe par un poteau, il arrive sur le toit d'un garage, et il voit ce truc, il prend son couteau, il fout un coup de couteau dans le sac, il en tire, et il y a de la poudre, visiblement, et il goûte, enfin, du bout des lèvres, du bout de la langue, etc. Et là, il revient en courant, il dit, putain, c'est bon, c'est ça, c'est bon, etc. Enfin, bon. Et à partir de là, on attend l'heure légale en veillant précieusement sur ce colis abandonné sur ce toit, et à 6h pétante, bam, bam, on explose toutes les adresses concernées par... et on a fait une très très belle affaire, voilà.
Alors, travailler à la brigade des stupéfiants, c'est se frotter à une forme de déshumanisation liée évidemment à la consommation de certaines drogues. Quand d'autres drogues vous amènent à côtoyer d'autres milieux sociaux, peut-être plus privilégiés, mais tout autant hors la loi. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on touche la déchéance d'un côté, quelque chose de triste. Moi, j'ai vu défiler, menottés ou pas, d'ailleurs, souvent même pas, parce que c'était des toxicos, et des jeunes, quoi, vous voyez, et abîmés, très abîmés, vous voyez. Donc c'était triste. Ça, c'est le côté très triste de l'affaire. Et moi, ce que je trouvais encore plus triste, et j'en ai souvent parlé avec les magistrats, j'ai dit, écoutez, on est désarmés quand même. C'est-à-dire qu'ils viennent chez nous, c'est interdit, donc on fait notre procès verbal, on les entend, et ils repartent, et ils vont de l'autre côté du trottoir, ils vont à Saint-Michel, ils rachètent une dose, quoi. Ça va pas. Et c'est à ce moment-là, c'est vrai que c'est engagé une grande réflexion entre police, justice, médecins spécialisés là-dedans pour créer ce qu'on appelle l'injonction thérapeutique, c'est-à-dire donnée par le procureur, c'est-à-dire que au sortir de nos bureaux, ils ne sortaient plus sur la voie publique, ils passaient par la justice et un médecin. Donc, c'était quand même un électrochoc supplémentaire, et là, surtout, un électrochoc à visée thérapeutique. Donc ça, je trouve que c'était quand même pas mal. Par ailleurs, vous avez raison, d'autres milieux, la drogue dans les boîtes de nuit, à Paris, ça commençait à devenir très très sérieux. Là, c'était plutôt d'ailleurs la coke, beaucoup la coke. Et ça posait problème, parce qu'il y a des boîtes où on sentait bien que c'était la fête tous les jours. Alors, au niveau de la hiérarchie, ministère de l'Intérieur, préfecture de police, bon, on dit, mais vous faites rien. Et bon, c'est bien, vous travaillez bien, les belles affaires sur la voie publique, des gros trafics. Mais bon, les établissements de nuit de la capitale, on en parle un peu trop, jusqu'au jour où on aura une overdose et... Bon, il fallait s'y mettre, beaucoup plus compliqué quand même, beaucoup plus compliqué.
Pourquoi ?
Bah parce que ce monde de la nuit, je connaisse tout, c'est un milieu brillant, beaucoup d'acteurs, de chanteurs, de sportifs, de gens qui ont de l'argent, quoi, beaucoup d'argent, et qui vont s'amuser, mais ils s'amusent, mais ils consomment aussi, quoi. Certains, pas tous, bien sûr, hein. Mais il y a des lieux où c'est plus concentré que d'autres. Et il y a une boîte dont on parlait beaucoup à l'époque, et beaucoup trop, pour qu'on ne fasse rien, c'était l'Apocalypse. Rue de Ponthieu, et c'était tenu par un couple, les Valères, là, qui après sont, je crois, sont partis vers Ibiza ou une chose comme ça. Et vous savez, il y a des modes comme ça. Bon, et là, ces années-là, c'était eux, le grand lieu de la jet set, quoi. Alors, il fallait y aller anonyme. Et donc, on y est allé à deux couples. On a constitué deux couples. Un couple de... qui était un vrai couple, d'ailleurs, d'officiers qui, en fait, dans la vie, étaient ensemble. Et puis moi, j'ai constitué... parce qu'on n'était pas énormément de femmes. Et j'ai constitué un couple avec... un de mes collaborateurs qui faisait partie du groupe des zombies, c'est-à-dire que c'est un gars qui avait les cheveux longs, un visage, une peau assez blanche, et puis donc il avait un look très moderne, les cheveux un peu longs, voilà. Donc, et d'abord je peux pratiquement dire son nom, et il s'appelle Franck Mancuso, parce qu'en fait il est devenu ensuite célèbre plus dans la police où il a œuvré longtemps, mais ensuite il a commencé à écrire des scénarios et il a réalisé des films, voilà. D'ailleurs je le vois toujours, c'est un garçon très bien et qui réalise de très belles choses. Donc avec lui on constitue un couple, et puis on essaie d'entrer. Alors évidemment, je peux vous dire, ça met du temps, hein, parce que les physionomistes, ils vous scrutent, ils font rentrer goutte à goutte, quoi. On finit par rentrer, et on s'était dit, voilà, bah, les premiers qui arrivent à tamponner, on se fait un signe, et à partir de là, youpi, quoi. Bon, c'est pas gagné, hein. Et effectivement, on commence quand même à voir, bon, je dirais pas les noms, mais bon, des gens connus, des grands sportifs qui s'en mettent dans le nez, des fils d'eux ou d'autres qui vont aux toilettes régulièrement, qui ressortent. On comprend bien que c'était pas juste pour faire pipi. Enfin bon, donc il se passe vraiment des choses là-dedans, sauf que faut le prouver quand même d'une façon un peu plus. Et donc, moi, je suis invitée à danser, parce que l'idée, c'est aussi de se séparer et puis de chacun puisse de son côté un peu tamponner les uns les autres. Et donc je suis invitée à danser par un gars qui a un brillant à l'oreille, hein, tout bon, voilà, ben, après tout, et je me dégonfle pas, je dis dis donc, voilà, et je demande s'il n'a pas du produit et tout, enfin bon, je vous passe les détails. Et le gars me dit oui, et j'en veux, bon, je lui demande, et il me donne, et discrètement, donc on danse, et il me donne une dose de cam, quoi, de coke. En fait, donc la règle du jeu, je fais comme les autres, donc je vais dans les toilettes et j'y regarde. Moi, bon, mais moi, je goûte pas. J'ai pas besoin d'ailleurs, parce qu'elle était belle, une belle neige. Ben, je reviens et là, je fais le petit signe et là, boum boum, fini le DJ, la lumière, machin, tout, la fête est finie, quoi. Donc il y a un grand ramdam et on interpelle nos gaillards, parce qu'entre temps, évidemment, on avait quand même repéré. J'ai fait court là, mais on a vu le gars. Avec qui il avait eu contact à l'extérieur, puisqu'on avait quand même une équipe à l'extérieur, donc voilà, c'est plus structuré que l'anecdote, la façon dont je vous en parle. Mais enfin, donc l'affaire se fait, on rentre avec une Porsche, une Ferrari, etc., au Quai des Orfèvres, et puis voilà, quoi. On a réalisé une très belle affaire, parce que le but du jeu a été aussi, au-delà de ces individus, d'avoir encore les trafiquants du niveau au-dessus.
En 1989, vous êtes nommé pour diriger la BRP, la Brigade de répression du proxénétisme, celle que l'on appelait autrefois la Mondaine. La Mondaine, au moment où vous en prenez la direction centrale, est une brigade où règne un climat sulfureux. Pourquoi ?
Si vous voulez, c'est un service où on peut dire le proxénétisme, ça a toujours été comme ça. Ce service, il est en charge de la répression du proxénétisme, toute forme de proxénétisme, c'est-à-dire par studio, proxénétisme hôtelier, proxénétisme de rue, proxénétisme réseau clandestin, etc. Vous voyez, toute forme de proxénétisme. Et c'est aussi un service qui s'occupe du contrôle des cabarets, de la capitale, tout ça. Donc tout ça, c'est un milieu qui est glauque, milieu de la prostitution, etc. Enfin, c'est un service qui est en cela dangereux, parce que plein de plein de risques. Vous voyez, c'est-à-dire que vous côtoyez un milieu qui est délicat, surtout pour les hommes d'ailleurs, parce que c'est le contact de la prostitution et tout ce que ça a d'ambigu. C'est-à-dire que vous devez avoir des contacts, parce que comme toujours dans la police, on y revient. J'en ai parlé un peu pour les stupéfiants, mais enfin, en proxénétisme comme en banditisme, quand vous avez des informateurs, c'est quand même un plus. Et à la mondaine, c'est plutôt des informatrices. Donc, il faut savoir, cornaquer tout ça, ne pas tomber dans les pièges, etc. Voilà, en ce sens. Et puis, il y avait aussi, et ça, c'est pas moi qui pourrais le raconter, mais plutôt mes prédécesseurs, ceux qui, dans les années 60, 70, ils se disaient qu'ils passaient des enveloppes. Enfin, vous voyez, il y a toujours eu ces espèces de légendes autour de ce service, qui ont toujours existé, et que la part de vérité, la part de faux. Donc, il fallait prendre surtout de la distance et être vigilant. Voilà.
Martine Monteil, c'est aussi une brigade centrale. Vous allez devoir gérer et sanctionner une affaire de corruption de collègues. Vous avez agi dans cette affaire comme avec n'importe quel autre délinquant ?
Oui. Enfin, pas n'importe non plus totalement. Mais quand même, et je crois que c'est le pire que tout qui puisse vous arriver, c'est la trahison. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, moi, quand je suis arrivée à la BRP, je connaissais déjà les gars, puisque on était brigade des stupéfiants du proxénétisme. Donc, les hommes, je les connaissais. J'avais travaillé, d'ailleurs, avec le groupe des cabarets. Et en matière de proxénétisme immobilier, notamment sur la rue Saint-Denis, c'est un studio, deux studios. Voilà, des trucs ponctuels. Et où vous aviez, en général, la responsable était une proxénète, mais en fait, femme de paille. Mais qui est derrière ? Et moi, c'est ça les questions que je posais. Je dis, écoutez, alors, à l'époque, il faut expliquer le contexte. En police judiciaire existait, il y a longtemps que ça a été supprimé, mais donc, existait un système de primes, c'est-à-dire, plus vous faisiez d'affaires, plus vous aviez de primes. Donc, les gars, leur intérêt, c'était aussi de faire le maximum de studios dans le mois pour avoir le maximum de primes. Bon. Un jour, je leur ai mis le marché en main, parce que je disais au chef de groupe, il doit y avoir un maillon au-dessus de ces femmes de paille, beaucoup plus intéressant, un vrai proxo, quoi. Mais le travail est plus long, plus difficile. Alors moi, je savais ce qu'il y avait. Alors, je les ai un peu provoqués. J'ai dit, écoutez, voilà, moi, je vous le dis. Les frais, vous les aurez. Peut-être que vous aurez même plus. Je m'engage à vous les donner dans ces cas-là. Vous ne serez pas déçus, mais à la condition, c'est-à-dire que vous pouvez sacrifier 2-3 mois des petites primes. Vous les sacrifiez, mais on travaille sur une grosse affaire. Et à ce moment-là, moi, je demanderai une grosse prime. Donc, ça reviendra au même, sauf qu'on aura fait une belle affaire avec les vrais responsables des trucs. Je comprends que les gars, ça les intéresse, si vous voulez, parce qu'ils ont aussi envie de faire ce bon travail et de remonter. Et ils jouent le jeu, et c'est ce qui se passe, si vous voulez. C'est-à-dire que je tiens parole, je dis à la direction, cette affaire, tu me la payes bien, parce que, elle sort de l'ordinaire, c'est comme une grosse belle affaire. Voilà. Et puis un jour, il y a un chef de groupe qui vient me voir, et il me dit, il y a une très belle affaire à faire. On a un peu tenté déjà de travailler dessus, mais on n'y arrivera pas. Il y a un bug. Je les avais déjà un peu titillés sur une adresse. Je dis, là, il ne se passe jamais rien. Pourquoi ? Et tout. Alors, c'est là qu'il me dit, je pense qu'on est balancé. Ah, je dis, alors, attendez, balancé. Hein, vous en avez trop dit ou pas assez ? Balancé par qui ? Par quoi ? Oh, il dit, je ne peux pas dire. Je dis, moi, je n'aime pas quand ça commence comme ça, où on se fait confiance. Il dit, mais oui, mais je n'ai pas la preuve. Donc, je dis, je comprends bien. Mais vous sentez plus de l'intérieur que de l'extérieur, quoi. Et de l'intérieur, intérieur, c'est-à-dire ici, chez nous, ou intérieur, mais ailleurs. Je dis, écoutez, alors d'accord. Alors, je sais ce qu'on va faire. On va faire comme si c'était le pire, c'est-à-dire que c'est de l'intérieur, mais ici, dans la brigade. Donc, on va mettre... Votre groupe, sur le coup, c'est vous et vous seul. Donc vous, mon adjoint, moi. Point. Pas une autre personne à côté. Personne ne doit parler. Celui qui parle, ça ira mal. Hein. Bon. Ils ont respecté le truc et tout. Et alors, en fait, on a brouillé les pistes, c'est-à-dire que même les écoutes téléphoniques, on les a masquées. là où ça devient dramatique, c'est que un jour j'arrive un matin et puis je rentre dans le grand bureau et il y avait un des gars qui était au casque comme ça et qui écoutait donc une conversation et je vois des larmes couler sur ses joues. Enfin, c'est pas banal, un gars solide quoi. Bon. Et alors du coup, moi, je suis discrète. Je dis qu'est-ce qui se passe. Alors, je vais voir son chef de groupe et puis je dis, il a un problème. Là, je vois bien qu'il est pas bien. Il dit, attendez, vous allez voir le problème. On va vous faire écouter. Et là où dans les précédents branchements qu'ils avaient fait, c'était des colibets à destination des flics parce qu'ils savaient que les flics les écoutaient. Et ben là, ils parlaient librement, les voyous. Et dans la conversation avec le plus gros des voyous, il y avait qui? Ben, quelqu'un du service. Voilà. Donc ça fait très mal. Très, très mal. Donc j'ai averti ma direction et l'IGS a été saisi. Et donc, ben voilà, les choses se sont faites.
Pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est vous et vos services qui allez arrêter la plus célèbre des maquerelles françaises, Fernande Grudet, plus connue sous le nom de Madame Claude. Comment est-ce que vous l'appréhendez ?
Alors ça aussi, c'est une affaire. J'ai un jour, mon chef de groupe, Claude Paul, pour ne pas le citer, je cite parce que ce sont des gens qui ont été tellement extraordinaires pour la police, dans leur implication, leur disponibilité, leur compétence, leur rigueur, si vous voulez, qu'ils méritent aussi d'être cités, parce que c'est moi qui parle, mais en fait, derrière, il y a aussi d'autres hommes, d'autres femmes, voilà, qui ont travaillé sur ces affaires. Donc lui et son équipe, lui, c'est un vieux de la vieille, quoi. Donc quand je dis ça, non plus, c'est pas péjoratif, mais c'est un homme qui a des informatrices, qui a des informatifs, il a du métier, il est prudent, mais on lui fait confiance et il a des informatrices. Et là, il a eu une info comme quoi la mère Claude aurait pu reprendre du service. Alors il vient me le dire. Il me dit, écoutez, je vous donne en mille. Et tout. Moi, sur le coup, je dis, croyez ? J'ai dit, mais quel âge est là, cette femme ? Alors, il me dit, elle est plus près de 70 que de 60. Enfin, bon, à l'époque. Je dis, vous êtes sûr de votre info ? Il me dit, écoutez, on va le vérifier, mais je crois pouvoir vous dire que ça doit être sûr. Et en fait, je dis, on y va. Et on se met en investigation, et hop, c'est confirmé. On la retrouve dans un petit appartement et tout, de toute façon très discrète, sous un toc, comme on dit dans notre métier, c'est-à-dire un faux nom. Et elle a gardé les mêmes méthodes, quoi. L'enquête, enfin, on le sent bien dans les écoutes téléphoniques. Ils s'en rendront compte quand ils sont prêts à l'interpeller et qu'ils écoutent derrière la porte, parce qu'ils choisissent le moment où il y a une fille qui s'est présentée et pour être recrutée, quoi, par elle. Et elle a toujours, enfin, ces mêmes questions, etc. Plus ce petit côté maquignonesque et terriblement vicieux, qui est de dire à la fille, elle les fait déshabiller, quoi, etc. Et elle dit, ah là, il faudrait faire une petite correction. Tu vois, tu as un petit peu de culotte de cheval, ou tu as ceci, ou il faut faire un peu plus de poitrine, ou il faut faire un peu plus de ceci, de cela. Vous voyez, elle les oblige aussi toujours à de la chirurgie esthétique, ce qui permet immédiatement, en cheville, en fait, avec un chirurgien esthétique, et qui fait que, hop, la fille, financièrement, elle est un peu piégée. Et évidemment, avec beaucoup de générosité, Madame Claude lui prête de l'argent, mais cet argent, elle va le rembourser. Comment ? Tiens, tu peux faire tel client, tu peux faire ceci, et voilà. Et la fille est partie dans l'engrenage. Enfin bon, bref. De toute façon, si elle vient la voir, quelque part, elle n'est pas farouche et elle sait qu'elle peut aussi se faire de l'argent. Alors, c'est pas non plus... je dis pas que ce sont des naïves. Hein. Mais enfin, le coup de la chirurgie esthétique, c'est l'espèce de petit plus, moi, qui m'a vraiment agacée. Surtout que là, en l'occurrence, la fille qu'elle était en train de regarder et de critiquer pour l'inciter à aller voir un chirurgien esthétique, c'est une fille qui était une ancienne du Crézy, vous voyez. Bon, alors donc... Je peux vous dire que le regard de mes collaborateurs en disait long sur le peu de nécessité qu'il y avait à toucher à la plastique de cette jeune femme, voyez. Donc voilà, ouais, bon.
Comment elle réagit quand elle femme qui l'arrête?
C'est-à-dire que au départ, elle a surtout très mal réagi au milieu de ces hommes qui l'ont arrêtée. Moi, je n'étais pas là à l'interpellation. Je suis chef de service, donc c'est mon adjoint et le chef de groupe et ces hommes qui sont allés et qui la ramènent. Et là, le chef de groupe vient me voir et mon adjoint, ils me disent, mais c'est une furie, là, l'ancienne, là, c'est horrible. Elle les malmène, elle les insulte, elle dit qu'elle ne parlera qu'en présence de son avocat, etc. Enfin, bon, tous les poncifs sont utilisés. Et puis, bon, je lui dis, écoutez, une fois en garde à vue, va se calmer. Et pas du tout. Elle est rebelle, tenace, elle veut même pas décliner son identité, vous voyez. Évidemment, cette femme-là, elle a jamais été interpellée. Sur le plan pénal, elle a été intriguée et même, incarcérée, hein, et poursuivie, donc, sur le plan fiscal. Quand on n'a plus voulu d'elle, c'est par ce biais-là qu'on l'a affaiblie et attaquée. Bon, ensuite, elle est partie faire sa vie aux États-Unis, ceci, cela, enfin, bon, bref. Tout le monde connaît le parcours de Madame Claude. Et là, elle revient à ses premières amours. C'est un truc qui a réussi, où elle s'est fait de l'argent. Donc elle se dit, après tout, discrètement, je vais pas faire un truc ronflant comme dans les années de gloire, mais quand même, je sais que je vais prendre beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, nous, en perquisition, on trouve déjà beaucoup d'argent parce que ces tarifs sont quand même au-dessus de la moyenne. Alors, et puis le chef de groupe, il est un peu agacé, ils en ont marre un peu de cette bonne femme, donc je me suis un peu confronté à elle. Donc je l'ai fait venir, et je lui ai un peu expliqué ce qu'il en était, si vous voulez, c'est-à-dire voilà, qu'elle réalise un petit peu, qu'elle remette les pieds sur terre, que c'était fini les heures de gloire, que là, elle était dans le cadre d'une affaire pénale, que c'était du proxénétisme aggravé, et que dans ces conditions, elle avait intérêt à être plutôt dans le sens de collaborer, de dire les choses, plutôt que de les nier, parce que de toute façon, ça lui nuirait, hein, qu'on savait tout, qu'il y avait des écoutes, qu'il y avait ceci, cela. Donc, bon, enfin, bref, j'ai recadré un peu tout ça. Bon, elle est restée assez tendue, vous savez, la tête haute, hein, le regard à la fois maquignonesque aussi d'ailleurs, et puis rebelle, quoi. Bon. Mais elle s'est calmée. Elle s'est calmée, et au point d'ailleurs que après, je sais plus si c'est mon adjoint ou mon chef de groupe qui revient et me dit, bon, elle voudrait aller se changer, donc c'était un peu plus tard dans la journée, parce qu'évidemment, elle a été interpellée, elle était en jogging, pas maquillée, pas ceci, pas cela, pas douchée. Bon, elle veut aller changer, qu'est-ce qu'on fait? Vous y allez. Bon, moi, je vois aussi la dame qui a un certain âge, qu'elle a en jogging et tout. J'attendais qu'elle y aille, surtout que j'étais absolument persuadée qu'elle serait déférée et qu'il fallait mieux qu'elle ait quelques affaires sur elle. D'ailleurs, je lui dis, on vous autorisait. Maintenant, pas de bêtises, d'une part. Et d'autre part, prévoyez justement quelque chose, parce que vous allez passer par le dépôt et sûrement même aller en prison. Donc, voilà. Et elle est revenue, qu'elle m'a remerciée, parce qu'elle se sentait mieux, si vous voulez. Elle était Madame Claude, elle s'était recoiffée, maquillée, elle avait mis un col roulé en cachemire, une veste en beau tweed, pantalon de laine, vous voyez, c'est-à-dire qu'on sent qu'elle avait des moyens, et tous les vêtements étaient de bonne facture. Bon, ben voilà, elle était redevenue la Madame Claude, voilà. Bon, ça l'avait détendue, ben tant mieux, hein, donc ça s'est un peu mieux passé pour le reste du temps, et ça s'est même très bien fini, parce que, évidemment, elle a été déférée, le magistrat souhaitait, bien sûr, l'incarcérer, les faits étaient caractérisés, et du coup, au dépôt, ben, j'ai dit à mon adjoint, j'ai dit, tiens, écoute, on va commander une pizza, et puis, avant d'aller au dépôt, comme c'était juste à l'heure du déjeuner, j'ai dit, on va partager une pizza avec elle. Enfin, l'idée aussi, c'était de parler un peu de tout, de rien, et de son passé glorieux. Donc, ça a été assez folklorique et assez amusant.
Merci Martine Monteil. On se retrouve demain, ici, au 36 Quai des Orfèvres, où vous nous raconterez votre parcours de patronne de la célèbre brigade criminelle. À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Pierre Chassagneux avec Martine Monteil. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Marc Garvenès, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.